Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Mouvements ecclésiaux, nouvelle communauté, association de laïcs réunis à Rome pour célébrer la Pentecôte avec le pape François en cette fin de semaine. Sous la devise « Je crois augmente en nous la foi », deux temps forts vont marquer cette célébration sur la place Saint-Pierre, la veillée de prière samedi soir et la messe dimanche matin. L'évangélisation de toute la terre, pour le pape François, c'est une priorité et c'est un discours chaleureux qu'il a adressé aux œuvres pontificales missionnaires réunies à Rome pour leur assemblée générale annuelle. Pour l'Église, porter le Christ au monde n'est pas une mission facultative, elle est essentielle. Pas de perspective d'ouverture pour le séminaire d'Alki en Turquie. Les autorités d'Ankara exigent en contrepartie la construction de deux mosquées à Athènes. La déception est grande dans les rangs des orthodoxes. L'Église catholique est parfois taxée d'homophobie, surtout quand elle s'oppose au mariage gay. Vous entendrez dans cette émission les explications de Mgr Brunin, président du Conseil Famille et Société des évêques de France. Emmanuel Focolari, Chemin Neuf, Communion et Libération, venu du monde entier, quelques 120 000 membres de 150 réalités ecclésiales se sont inscrits pour fêter la Pentecôte avec le pape François sous les auspices du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation dans le cadre de l'année de la foi. Samedi soir, la veillée sera rythmée par des chants, des lectures, des temps de prière, des témoignages, des invocations et la profession de foi baptismale. Parmi les présences les plus attendues, celle de Paul Batty, le frère du ministre catholique Shabazz Batty, assassiné au Pakistan, s'exprimera publiquement. Un écrivain irlandais racontera pour sa part comment il a retrouvé la foi. De nombreux handicapés devraient être également présents. Le Saint-Père dialoguera avec quatre personnes qui lui poseront quelques questions et il proposera un commentaire de l'Évangile. À l'occasion de ce rassemblement, nous avons joint le Père Raniero Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale. Il est membre du renouveau charismatique et il s'attarde sur le charisme des mouvements ecclésiaux et sur leur contribution au sein de l'Église.
Benoît XVI disait que les mouvements ecclésiaux sont peut-être la manifestation la plus évidente de la vraie nouveauté que le Concile Vatican II cherchait. Et je suis d'accord avec ces jugements. C'est quelque chose de nouveau, c'est le fruit de l'Esprit qui est lié à la prière de Jean XXIII pour une nouvelle Pentecôte pour l'Église.
Peut-on considérer que les mouvements ecclésiaux sont en quelque sorte aux avant-postes de l'évangélisation?
Ça, c'est une constatation, plus qu'une promesse ou une attente. C'est une constatation. En voyageant par le monde, je vois que c'est vraiment les laïcs qui sont au fond de l'évangélisation, surtout dans l'évangélisation des lointains, des gens qui ne vont pas à l'église. Parfois, je dis que et à cause du manque du clergé, nous sommes maintenant les prêtres, les religieux, nous sommes plus préparés pour être des pasteurs, des brebis, que d'être pêcheurs d'hommes. Dans le sens que nous n'avons pas les ressources pour aller au large, c'est-à-dire dans les mailles de la vie sociale, économique, culturelle. Et ce sont les laïcs qui sont plus proches de la réalité sociale. Et donc c'est eux qui doivent un peu nous aider et être pêcheurs d'hommes. Et souvent ils le sont vraiment.
Benoît XVI avait souligné qu'il n'y a aucune opposition dans l'Église entre charisme et institution. Pourtant, le dialogue n'est pas toujours facile et certains reprochent aux mouvements ecclésiaux d'adopter une attitude trop identitaire.
Il faut dire tout de suite que les mouvements ecclésiaux sont une dénomination assez large, général. Il y a beaucoup de différences entre les mouvements ecclésiaux. Il y en a qui sont vraiment un peu structurés et parfois un peu, il faut l'admettre, un peu rigides. Et c'est le prix à payer pour la force, la cohésion qu'ils ont. Et donc oui, il y a des cas dans lesquels les dialogues avec l'institution, les paroisses, les curés, les évêques, n'est pas si facile. Ça dépend souvent de la nature du mouvement et parfois aussi des caractères des personnes, de la manière dont les leaders interprètent les charismes. Mais il faut dire que là où on a la patience de surmonter les difficultés et de s'accepter avec les limites, hein, et les fruits sont merveilleux. Parfois un peu badinant, je dis que l'institution et les charismes sont comme les deux bras de la croix. Ils ont besoin l'un de l'autre.
On peut considérer que les mouvements ecclésiaux sont un souffle qui renforce les chrétiens dans la conviction d'appartenir à l'Église.
Oui, en général, il faut dire que, grâce à Dieu, les mouvements ecclésiaux ne sont pas nés avec un esprit de polémique ou de contestation. Dans certaines places, comme en Amérique latine, pendant des années, il y avait le doute et la peur que ces mouvements pouvaient disgréguer l'Église catholique ou encourager les gens à quitter l'Église catholique. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on s'est aperçu que ces mouvements ne sont pas un problème, sont une partie de la solution du problème de l'abandon de l'Église. Parce que beaucoup restent dans l'Église catholique précisément parce qu'ils trouvent finalement dans l'Église catholique un lieu où exprimer leur foi d'une manière spontanée, d'être engagé, de pouvoir intervenir activement dans l'évangélisation, dans la liturgie, dans le ministère de l'Église. Et donc, à part les défauts, les limites qui accompagnent toujours, même à l'Église de Corinthe, au temple de Saint-Paul, il y avait des choses qu'il fallait régler, ordonner, discipliner. Mais en dépit de tout ça, nous devons rendre grâce à Dieu pour ces énergies merveilleuses qu'il a répandues sur l'Église, qui nous donnent le droit de parler d'une nouvelle Pentecôte.
Pourquoi avoir choisi d'appartenir au renouveau charismatique? Comment s'est passée votre rencontre avec le mouvement?
Je dois vraiment dire, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. J'ai été même critique envers ce mouvement pendant au moins 2 ou 3 ans. Et finalement, je me suis rendu à l'inspiration de l'esprit, je pense, et aussi à l'évidence. Comme j'étudiais les origines chrétiennes, je me rendais compte que ce qui se passait parmi ces gens était exactement ce qui arrivait à l'église de Corinthe. Ces floraisons de charismes, de prophéties, de guérisons, de toutes sortes de charismes, je voyais donc. Et pour finir, j'ai accepté, compris sur moi, pour recevoir ce qu'on appelle le baptême dans l'esprit. Et je dois dire que tout ce qui a su dans ma vie est le fruit de cette décision. L'abandon de l'université, puis devenir prédicateur de la maison pontificale, devenir prédicateur à temps plein, tout ça, à mon avis, a été la conséquence de cette décision.
Le père Cantalamessin, interrogé par Hélène Destombes, un témoignage à retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. Ce rassemblement à l'occasion de la Pentecôte, fête de l'Esprit-Saint, était prévu avant la démission de Benoît XVI et a été maintenu par le pape François. Les participants effectueront samedi matin un pèlerinage sur le tombeau de Saint-Pierre. Un concert sera organisé dans l'après-midi. Le lendemain matin, dimanche 19 mai, les membres des différents mouvements assisteront place Saint-Pierre à la messe de Pentecôte présidée par le pape François, suivi de la prière du Regina Celli. Ce vendredi matin, le pape François s'est adressé à l'une des institutions les plus importantes pour l'Église et sa mission, les œuvres pontificales missionnaires. Elles ont pour objectif commun de promouvoir l'esprit missionnaire universel au sein du peuple de Dieu. En pleine année de la foi où la nouvelle évangélisation est au cœur des attentions de l'Église, le Saint-Père leur a adressé des paroles d'encouragement et de reconnaissance. Olivier Tosserie.
C'est un hommage appuyé que le pape a rendu à ceux qui œuvrent pour la mission principale de l'Église, l'évangélisation. L'évêque de Rome n'est pas seulement le pasteur d'une seule Église, mais de toutes les Églises, a rappelé François, avec un but, l'annonce de l'Évangile jusqu'au bout du monde. Et il peut compter sur les œuvres pontificales missionnaires, un instrument dans les mains du pape pour offrir à tous le bien précieux que représente la bonne nouvelle. Son annonce est toujours d'actualité. Beaucoup de peuples n'ont pas encore connu le Christ et il est urgent de toucher le cœur de ces hommes et de ces femmes, y compris à travers de nouveaux moyens pour leur donner le don de la foi. Une mission difficile mais enthousiasmante qui ne s'effectue que grâce à Dieu. Les missionnaires ne sont que des intermédiaires, des instruments de l'action de l'Esprit-Saint. Elle est destinée en priorité aux plus humbles, aux plus pauvres, aux exclus, auxquels il est impératif de transmettre la miséricorde et l'amour de Dieu pour tous. Ne vous fatiguez pas d'éduquer chaque chrétien dès l'enfance, a exhorté le pape. C'est le devoir des œuvres pontificales missionnaires, œuvrer à la mission évangélisatrice des églises et à leur communion pour le bien de l'Église universelle.
Et toujours au Vatican, une consultation sur les nouveaux mouvements religieux s'est déroulée jeudi à l'initiative du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. La rencontre a rassemblé une quarantaine de participants représentant plusieurs dicastères du Vatican, des universités pontificales, de la Conférence des évêques italiens et du Vicariat de Rome. Le Conseil pour le dialogue interreligieux étudie depuis un certain temps le phénomène des nouveaux mouvements religieux qui exigent, selon lui, attention et réflexion. Il le fait en collaboration avec la Congrégation pour l'évangélisation des peuples et les conseils pontificaux pour l'unité des chrétiens et de la culture. En 1986 déjà, à la suite d'une consultation menée auprès des conférences épiscopales, le Saint-Siège avait publié un bref rapport intitulé « Le phénomène des sectes et les nouveaux mouvements religieux, un défi pastoral ». Depuis, de nombreux autres textes ont été publiés, entre autres sur le phénomène du « New Age ». Le patriarche œcuménique de Constantinople a lancé jeudi un vibrant appel en faveur de la liberté religieuse. Bartholoméos Ier s'exprimait à Milan dans le cadre d'une lecture magistrale à deux voix avec le cardinal Scola, organisée à l'occasion du 1700e anniversaire de l'édit de Milan. Olivier Bonnel.
Le patriarche en appelle à la communauté internationale, car les persécutions antichrétiennes se poursuivent sous de multiples formes dans le monde entier. Il ne cache pas son scepticisme quant au succès des révolutions arabes. Les résultats sont selon lui décourageants. Pourquoi les chrétiens ne peuvent-ils pas bénéficier dans les pays musulmans de la même liberté et des mêmes droits accordés aux musulmans dans les pays chrétiens, s'interroge Bartholoméos Ier. Mais quand il cite les souffrances endurées par les chrétiens de Syrie, il ne manque pas d'évoquer les violences exercées contre les musulmans en Birmanie. Car en plus de la crise économique mondiale, nous connaissons selon lui une crise de la liberté. De son côté, le cardinal Scola, l'archevêque de Milan, a préféré mettre en garde les chrétiens contre la tentation du repli sur soi. Selon lui, il faut transmettre aux nouvelles générations la foi de leur père, tout en développant des liens de solidarité et d'amitié avec les autres. Les paroisses, les associations et les mouvements, a-t-il insisté, doivent comprendre que les chrétiens n'ont pas de bastions à défendre, mais des chemins à parcourir pour montrer que Jésus est l'évangile de l'humanité.
Après Milan, la réflexion sur la liberté religieuse, 17 siècles après l'édit de Milan, se poursuit à Istanbul, vendredi et samedi, sous l'égide du patriarcat œcuménique de Constantinople, en collaboration avec le Conseil des conférences épiscopales d'Europe. Dans un message, le pape François demande aux autorités civiles que soit respecté le droit des croyants d'exercer librement leur culte et d'exprimer publiquement leur foi. Dans le même temps, il invite les Européens à reconnaître le rôle joué par le christianisme en Europe et à accueillir sans préjugés la contribution que les chrétiens peuvent encore offrir aujourd'hui. S'adressant par ailleurs plus spécialement au patriarche de Constantinople, il déclare attendre le jour où les divisions du deuxième millénaire feront définitivement partie du passé. Le séminaire d'Istanbul rassemble des catholiques et des orthodoxes, mais aussi des juifs et des musulmans. Et toujours en Turquie, le bras de fer se poursuit entre le patriarcat œcuménique et Ankara au sujet du séminaire d'Alki, un des principaux centres de formation du clergé orthodoxe, fermé par les autorités turques en 1971. Le terrain appartenant au séminaire a été récemment restitué au patriarcat, mais le séminaire lui-même restera fermé. Un coup dur pour les orthodoxes qui luttent pour leur survie en Turquie. L'AKP du Premier ministre Recep Erdogan a assoupli la politique gouvernementale à l'égard des minorités, mais n'a toujours pas autorisé la réouverture du séminaire malgré les pressions américaines. Le 17 mai est célébré depuis 2005 une journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Cette date a été choisie pour commémorer la décision de l'Organisation mondiale de la santé en 1990 de retirer l'homosexualité de la liste des troubles du comportement. L'Église catholique condamne l'homophobie. Elle respecte les personnes homosexuelles, mais elle s'oppose aux pratiques homosexuelles. En France, la mobilisation des chrétiens contre le mariage pour tous a été parfois perçue comme l'expression de sentiments homophobes. Alors qu'en est-il exactement? Nous avons posé la question à Mgr Jean-Luc Brunin, président du Conseil Famille et Société de l'Église de France.
Je pense que nous pouvons faire référence à de nombreux textes du magistère dans ces dernières années qui, à la fois, posent non pas une condamnation, mais situent l'homosexualité comme quelque chose qui n'est pas adéquat à la nature de l'homme. Mais il n'y a absolument aucune condamnation des personnes homosexuelles. Alors, ce que l'Église condamne, c'est les actes homosexuels, mais elle invite sans cesse à un respect des personnes. Et vis-à-vis des personnes, l'Église s'adresse à elles en les invitant à découvrir une relation qui soit marquée par la chasteté. Donc l'Église est ferme par rapport à l'homosexualité. Elle invite au respect absolu des personnes qui vivent cette situation, demandant beaucoup d'écoute et un accompagnement pour les aider à vivre cette situation de la façon la plus heureuse et harmonieuse possible, en leur proposant ce chemin de la chasteté qui est un chemin de réalisation de soi et un chemin d'une recherche de fécondité qui ne se limite pas à l'engendrement d'enfants. Et je crois que cette attitude, eh bien, c'est celle de l'Église et je crois qu'il faudra que nous la rappelions. Alors c'est vrai qu'il y a eu des écarts parce que l'absence de débat a radicalisé des positions et c'est vrai qu'à la faveur de cette radicalisation, on a eu des propos nettement homophobes que l'Église ne peut que condamner.
Alors une nouvelle manifestation nationale est prévue le dimanche 26 mai, toujours dans cette perspective de contestation de la loi du mariage pour tous. Est-ce que vous voulez lancer un appel pour recadrer un peu la nature de cette contestation?
Il ne faut pas réduire les choses au seul terrain politique. La mobilisation doit continuer, non pas sur le terrain politique, puisque un chrétien doit accepter dans un espace démocratique que la loi ne soit pas l'exact reflet de ses convictions. La mobilisation, elle doit se poursuivre sur le terrain de l'anthropologie. Il y a une vision chrétienne de l'homme qu'il faut continuer à promouvoir, pas simplement en manifestant ou par des discours, mais aussi par le témoignage de vie auprès des autres. Et puis, il y a une mobilisation éthique, une éthique qui est éclairée par l'Évangile.
Des propos recueillis par Manuela à Figi. 500 ans après la création de la confrérie des Bretons à Rome, l'église de Saint-Yves des Bretons, un lieu chargé d'histoire, rouvre ce samedi après 2 ans de restauration. La fin des travaux coïncidera avec le pardon de Saint-Yves. Les cérémonies seront présidées par Mgr Lucien Fruchot, évêque émérite de Saint-Brieuc et Tréguier, en présence de Marc Le Fur, député des Côtes d'Armor et vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Baptiste Cocagne.
Au milieu du XVe siècle, l'évêque de Quimper obtient du pape Nicolas V la concession d'une église en faveur de la communauté des Bretons vivant à Rome. Au flanc de l'église, la communauté bâtit alors un hôpital et un hospice pour y accueillir les pèlerins bretons. L'église prend alors le nom de Saint-Yves, défenseur de la veuve et des déshérités. En 1513, Anne de Bretagne et l'évêque de Rennes et de Nantes, Robert Guibé, deviennent ses protecteurs attitrés et le pape Léon X institue canoniquement la confraternité des Bretons de Rome. Autour de l'église se crée alors une petite colonie, comme le feront d'ailleurs les Français, les Portugais, les Espagnols, dont les églises nationales sont proches de celles des Bretons. En 1875, sous prétexte de vétusté, l'ensemble des biens appartenant à la confrérie est démoli. À la place, sont construits 2 immeubles de rapport et l'église actuelle, plus petite que la précédente. En 2011, les pieux établissements de la France, à Rome et à Lorette, propriétaires de 5 églises françaises de Rome, décident de restaurer l'église du sol au plafond. L'occasion a été saisie pour faire revenir certains éléments, dont un bénitier en marbre datant de 1513, et offert par un certain Jean Daniel, chanoine de Vannes. Par ailleurs, reprenant une antique tradition, le blason de Bretagne a été replacé sur la façade en face de celui de la République française.
Ce samedi à 18h, le cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État du Saint-Siège, présidera l'ordination épiscopale du ministre général de l'ordre franciscain des frères mineurs. Le père José Rodriguez Carballo a été nommé le 6 avril dernier par le pape François, secrétaire de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Son ordination épiscopale se déroulera en la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. En raison de sa nouvelle mission, le père Rodriguez Carballo quitte la charge de président de l'Union des supérieurs généraux. Il sera remplacé à ce poste par le supérieur général de la Compagnie de Jésus, le père Adolfo Nicolas. L'Union tiendra son assemblée générale en novembre 2013. Et puis sachez que le chef de l'État italien Giorgio Napolitano effectuera une visite officielle au Vatican le 8 juin. Il rencontrera le pape François. Les deux hommes se sont déjà entretenus le 19 mars dernier au terme de la messe d'inauguration du nouveau pontificat. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français et sur Twitter, ainsi que sur vos tablettes et smartphones grâce à notre application en français. Bonne fin de semaine à tous.